Bonsoir, entrons ensemble dans le temps du débat comme tous les soirs sur France Culture entre 18h20 et 19h. À l'ordre du jour ce soir, la France et ses paysans, un amour déçu. Une nouvelle journée d'action a paralysé une partie de la France aujourd'hui, marquée par des manifestations d'agriculteurs pour protester contre ce qu'ils appellent l'agribashing. Qu'est-ce que l'agribashing? L'impression pour nombre de paysans d'être incompris et même critiqués sans cesse, voire niés dans leur propre métier. Ce milieu agricole a pourtant trouvé depuis 3 semaines un avocat. Il s'appelle Édouard Bergeon, il est fils d'agriculteur et cinéaste, et son film de fiction avec Guillaume Canet dans le rôle principal, Au nom de la terre, remporte un grand succès dans les salles, mais un succès différencié selon que l'on se trouve à Paris ou en province. Édouard Bergeon est un de nos invités ce soir, avec l'historien Édouard Lynch, qui est en duplex avec nous depuis les studios de Radio France à Lyon, que nous remercions de l'y accueillir, et une éleveuse des Yvelines, Fanny Durand-Bochoum, qui est cofondatrice du collectif Ici la Terre.
Monsieur Bergeon, les avances de trésorerie, ça commence à faire beaucoup, surtout cumulé avec l'ensemble des prêts.
C'est quoi? Tu vas te remettre un crédit sur le dos?
On voit bien là votre nouveau bâtiment. Il y en a qui disent que ton père il se la pète, hein.
Pareil que t'es dans la merde. Si tu m'avais écouté, au lieu d'aller foutre la main dans le système,
t'étais jusqu'au cou dans le système.
Moi au moins, j'étais libre.
Mais qu'est-ce que tu veux en fait? Qu'est-ce que tu cherches?
Qui se démerde.
Voilà un extrait de votre film, Édouard Bergeon, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Un film qui remporte un grand succès, je l'ai dit, en France, 1 300 000 entrées. Mais combien d'entrées à Paris?
C'est un petit peu moins de 100 000, ce qui reste un beau score, hein, mais bon, c'est un petit peu moins qu'en région.
Qu'est-ce que ça nous dit, là, justement, cet accueil différencié, comme je l'ai dit tout à l'heure, de votre film
peut-être
en France?
Une fracture entre les citadins et nos paysans, et même plus encore les habitants des zones rurales, des zones peut-être plus grises, les habitants de la France de Christophe Guillouis. La France qu'il décrit...
Comme France périphérique,
ou ouais, encore, je pense, ouais.
La diagonale du vide, c'est cela?
Ouais, je pense que les plus grands déserts ne sont pas forcément en Afrique. On a déjà des très beaux au centre de la France, des déserts médicaux, sociaux, culturels. Et il faut savoir que les agriculteurs tiennent le territoire. Un agriculteur, on dit qu'il fait vivre 9 à 10 personnes indirectement, dans les emplois agroalimentaires, de coopératives, de banques. Imaginez, en plus, c'est des services publics. La poste, la santé, le trésor public. Sans agriculteurs, on perd son territoire. Et un État qui abandonne son territoire, c'est un État qui abandonne sa souveraineté, c'est pas de moi, hein, c'est de Pierre Mendès France. Mm-hmm.
Et donc, vous avez reçu, j'imagine, lors de vos tournées un peu partout en France, un accueil très chaleureux. Peut-être d'abord un tout petit peu interdit devant, évidemment, le suicide d'un agriculteur, puisque c'est ce que vous racontez, et vous partez du cas de votre propre père. L'endettement, la nécessité de toujours réinvestir et de toujours être endetté encore un peu plus dans cette France des années 80-90 que vous décrivez dans ce film, en l'occurrence. Vous avez reçu quel accueil de la part de vos spectateurs, dans les avant-premières en particulier, et en particulier quand vous vous rendez dans des milieux qui sont plutôt agricoles?
C'est vrai que j'ai fait plus de 80 d'avant-premières avant la sortie du film, fin septembre. Et ce film, c'est aussi une ode à la terre et au bonheur que de vivre à la campagne et dans une ferme. Moi, je pose toutes mes petites madeleines de Proust en...
Ah oui, on les sent, effectivement. La liberté. Piscine faite en bottes de paille et en polyane.
Le vélo. Les fêtes de la famille, le banquet d'anniversaire. Tout ça, c'était important pour moi parce que je décris cette belle France agricole, mais dans cette belle France agricole, il y a des familles qui se battent d'agriculteurs et qui souffrent parce qu'on les a conduites dans un système de productivité et d'investissement qui est aujourd'hui insupportable. Je raconte le système de l'intégration, comment un système coopératif agricole, tout ça c'est de la co-gestion, hein. Il y a des agriculteurs qui sont à la tête de tout ça, hein. Des coopératives, du crédit agricole, de gestion.
C'est un crédit mutualisé en l'occurrence.
Je raconte comment une coopérative vous pousse à investir dans une cathédrale, un bâtiment qui est énorme. On vous apporte les poulets, ça aurait pu être des porcs, ça pourrait être des veaux, c'est de l'intégration. Hein. On vous apporte les aliments et à la fin, on vous reprend les animaux engraissés et on vous donne de l'argent s'il en reste. C'est-à-dire que vous ne faites pas la facture, vous, en tant qu'agriculteur, à la fin. Et ça, c'est terrible.
Et cela donne aussi, effectivement, un regard de ceux qui ne connaissent pas le milieu agricole, qui est assez dur sur ce qui est en train de se passer, parce que vous le décrivez de façon quasi documentaire ce milieu de l'intégration agricole et au bout du compte d'une situation qui est intenable pour ceux qui sont entrés dans ce système et qui ne peuvent pas en sortir. Est-ce qu'on tente de vous récupérer, Edouard Bergeon, soit du côté de l'agribashing, soit du côté de l'autre côté? Est-ce qu'on tente de dire, tiens, ce film-là nous dit quelque chose de la situation très contemporaine alors qu'il se passe il y a maintenant une quinzaine ou une vingtaine d'années?
Bah moi, mon ADN, c'est celui des journalistes, documentaristes, donc c'est de retranscrire aussi des faits et de m'inspirer des faits de société. Donc j'ai été très précis tous les éléments de décor et de narration. Et puis je viens de ce milieu, je suis fils d'agriculteur, petit-fils d'agriculteur. Oui, il y a bien entendu beaucoup d'acteurs du monde agricole, des acteurs du monde agricole qui ont tout de suite voulu emmener le film sur un terrain agribashing et puis justement antichimie, tous les débats actuels. Et quand ils ont vu le film, le film a fait son effet, ils ont dit c'est nous en fait, c'est notre vie.
Et ça n'est pas effectivement un plaidoyer pour tel ou tel mode d'agriculture.
Non, il n'y a pas de jugement, je pense.
Edouard Lynch, bonsoir. Vous êtes historien du monde agricole et des agriculteurs et votre dernier travail s'intitule « Insurrection paysanne de la terre à la rue ». C'est le résultat de votre habilitation à diriger des recherches et c'est paru au tout début de cette année aux éditions Vendémiaire. Vous avez travaillé depuis longtemps sur cette question du monde agricole et de ses représentations. Qu'est-ce que vous diriez justement de ces représentations contemporaines et très contemporaines qu'on peut voir aujourd'hui, de cette impression que les agriculteurs sont incompris, délaissés et même trop souvent critiqués par le reste de la population, étant donné leur nombre aussi. Ils sont beaucoup moins nombreux qu'il y a 20, 30 ou 50 ans.
Oui, bonjour, merci. Évidemment, la question est un peu ambitieuse de répondre en quelques minutes, voire secondes, sur cette question complexe et surtout cette question en profondeur, parce que finalement, les représentations positives et négatives de la paysannerie, elles sont presque aussi vieilles que la paysannerie elle-même. C'est vrai qu'on a parfois le sentiment que les représentations positives dominent autour de la figure du paysan nourricier, du mythe de la ferme, du lien avec la nature. Ce sont des images qui existent dans le passé, que les agriculteurs ont tendance à aussi s'efforcer d'exploiter. On peut penser par exemple à la mise en scène du salon de l'agriculture. Mmh. Mais il ne faut pas oublier que les images négatives aussi sont très très présentes. Alors il y a les temps de pénurie, bien sûr, le paysan affameur, mais il y a aussi ce paysan près de ses sous, ce paysan inconséquent, ce paysan obtus, dont l'image ressurgit très fortement durant les périodes de crise. Et moi ce qui me frappe, puisque je travaille aussi beaucoup depuis quelque temps sur les films agricoles, donc les représentations, et je suis frappé comment dans les années 50-60, au moment justement où on s'était forcé de promouvoir ce modèle de l'intégration et donc d'opposer les paysans modernisateurs aux paysans archaïques, il y avait aussi un discours très violent sur le paysan stigmatisé comme refus du progrès, le paysan sale, le paysan...
Le tas de fumier dans la cour aussi, il y avait toute cette image-là.
Voilà, toute cette étroitesse d'esprit. Et ces images-là ont eu tendance un petit peu à s'effacer dans la dernière décennie, à l'aune du triomphe du modèle agricole productiviste. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, elles ressurgissent à la fois de l'extérieur, dans la critique, on va dire, écologique et environnementale du modèle. Mais c'est vrai qu'elles traversent aussi... La paysannerie elle-même, qui semble-t-il, s'interroge aussi de plus en plus sur le jeu qu'on lui a fait jouer, pour lequel elle a aussi, dont elle a tiré des bénéfices, mais qui sont certainement, qui sont vraiment, vraiment novateurs. Et entre l'image rose et l'image noire, pour reprendre la belle formule de Ronald Upshare, c'est vrai que là, en ce moment, l'image noire a tendance à ressortir et sous des formes assez originales, c'est vrai.
Alors, nous avons avec nous, non pas un fils et petit-fils de paysan comme Edouard Bergeon, non pas quelqu'un qui observe le monde paysan comme vous-même, Edouard Lynch, mais aussi une éleveuse, fille elle-même de paysan, Fanny Durand. Vous avez cofondé avec d'autres dans les Yvelines ce collectif qui s'appelle Ici la Terre. C'est un collectif qui permet d'appeler un numéro vert et de tomber sur un groupe de paysans, d'agriculteurs, agricultrices qui racontent leur métier. Qu'est-ce qui fait que vous avez eu envie justement de créer ce numéro vert, de faire en sorte qu'on puisse vous parler directement? Quelles ont été justement les raisons qui vous ont motivé pour vous lancer dans une aventure comme celle-ci, qui fait qu'on vous appelle à, non pas à toute heure du jour et de la nuit, parce que c'est pendant la journée évidemment de travail, mais on vous appelle pour pouvoir vous demander des renseignements sur ce que vous faites?
Tout à fait. Merci d'abord de nous recevoir. En fait, ce qui a motivé la création de ce numéro, c'était tout simplement parce qu'avec donc Jérôme et Olivier, qui sont deux amis agriculteurs, on a senti qu'il y avait quand même au niveau de l'actualité, des médias, une grosse déformation à chaque fois de l'information sur le milieu agricole. Moi, je me suis récemment installée en élevage. Pour reprendre mon expérience personnelle, dès que je me suis mis, enfin depuis l'année dernière, j'élève des vaches et on transforme le lait pour faire des fromages, on vend direct à la ferme. Et tout de suite, ça a été, ça y est, les éleveurs, c'est des tueurs, on arrache les veaux des mères, enfin les produits laitiers, c'est nocif, tout ça. Mes collègues ont été victimes aussi de pétitions parce que ils sont proches des communes ou des écoles, donc sur l'utilisation de leurs pesticides. Donc c'était vraiment ce qu'on appelle pour le coup l'agribashing. Et puis face aux chiffres quand même alarmants du suicide dans le milieu agricole, on s'est dit faut faire quelque chose quoi. Et à chaque fois qu'on relaie une information, on n'en est pas vraiment maître puisque du coup elle est un peu déformée quoi.
D'une certaine façon, comme vous faites de la vente directe, vous voulez faire de la vente directe de vos informations sans passer par les médiateurs qui selon vous sont des mauvais médiateurs en l'occurrence parce qu'ils déforment votre propos. C'est ce que vous voulez dire?
Exactement. En fait, on s'est dit que si à ce moment-là les gens ont des questions à poser, bah autant les poser directement aux personnes concernées.
Donc, alors ils savent pas les gens qui téléphone à ce numéro, ne savent pas sur qui ils tombent. Ils tombent selon le jour et le moment, sur tel ou tel, sur vous ou sur quelqu'un d'autre. Mais qu'est-ce qu'ils posent comme question, justement, ces Français et ces Françaises qui vous appellent depuis que vous avez lancé ce numéro?
Bah, ils posent des questions. Alors souvent, ils vont poser des questions sur l'actualité, hein, sur les manifestations, ce genre de choses. Après, on essaye d'orienter élevage ou céréales ou grande culture, tout ça. Donc après, on réoriente parce que ils n'ont pas forcément sur s'ils ont une question d'élevage et qu'ils tombent sur quelqu'un qui est pas en élevage, ils n'ont pas forcément la bonne personne. Donc on peut les réorienter. Mais après, ils vont poser des questions. Moi, j'ai eu sur les pratiques, par exemple d'élevage. Comment est-ce qu'on considérait les animaux? Pourquoi est-ce que tout le monde n'était pas en bio? Il y a eu aussi beaucoup d'appels qui étaient juste pour féliciter la démarche et remercier. Il y a eu quand même aussi beaucoup d'appels d'agriculteurs isolés qui ont dit merci, c'est cool de savoir qu'on peut être écouté. Et il y a aussi beaucoup de questions sur la lecture des étiquettes en grande surface, à savoir, ben moi, si j'achète cette viande-là, comment je sais, comment elle a été élevée, etc. quoi.
Édouard Bergeon, ces questions, elles sont le fruit d'un système dont vous vous êtes à la fois éloigné, puisque vous n'avez pas repris la terre vous-même, mais dont vous êtes rapproché. Pas encore, peut-être, c'est ça?
Non, j'ai eu mon BPREA, mon brevet responsable d'exploitation agricole, et je reprends les terres de ma mère, là, cette année.
Bon, et donc, vous en êtes à la fois éloigné et rapproché en faisant un film sur ce sujet-là, en ayant fait auparavant un documentaire. Est-ce que vous avez vu, entre le moment justement dramatique du suicide de votre père et aujourd'hui, est-ce que vous avez vu une évolution dans un sens ou dans l'autre du regard porté par les non-agriculteurs sur ceux qui pratiquent l'agriculture aujourd'hui?
Mon père est parti il y a 20 ans et aujourd'hui je dirais que rien n'a changé, c'est même pire. Donc aujourd'hui il y a quand même... Il y a un vrai décalage entre... Enfin, c'est la double peine pour les agriculteurs. C'est qu'aujourd'hui, ils gagnent pas bien leur vie. Plus d'un tiers gagne moins de 350 euros par mois. C'est quand même aberrant.
Ce qu'on comprend bien quand on voit votre film, parce qu'effectivement, la femme est toujours au travail quand c'est le cas, lorsque c'est l'agriculteur qui fait les terres, et bien sa femme, généralement, a un métier à côté, comptable ou autre chose.
Certains voudraient faire encore plus de qualité, mais la qualité... elle ne se paye pas, donc il faudrait que les denrées agricoles ne sont pas plus chères qu'à la fin des années 70, début des années 80, quand les denrées sortent, les produits sortent des fermes. Et puis maintenant, il y a le jugement du grand public, le côté empoisonneur, pollueur. Faut pas oublier qu'en plus, les premiers empoisonnés, ce sont les agriculteurs eux-mêmes. Il y a une explosion du nombre de maladies de Parkinson, de cancer de Hodgkinien, de lymphome suite à l'utilisation de pesticides. Et même, moi je pense vraiment, et c'est prouvé scientifiquement, mais on le dit pas encore beaucoup, que l'exposition à haute dose de chimie peut déclencher des dépressions peut être un facteur aggravant également. Je suis pas là pour opposer les agricultures. Aujourd'hui, on est dans un mode d'agriculture conventionnelle. On peut aller vers le bio et puis des choses comme ça, mais ça, voilà, faut juste aussi remettre l'agriculture française est la plus durable du monde, juste déjà.
Oui, et il y a aussi quelque chose qui empêche peut-être de mieux comprendre ce qui se passe, en l'occurrence Fanny Durand-Bochung, c'est que on met l'agriculture dans un grand sac et on ne sait pas les difficultés ou les différences qu'il peut y avoir entre un grand viticulteur de Bourgogne ou du Bordelais, un éleveur du Cantal, un céréalier du Poitou d'où je viens et d'où vient d'ailleurs aussi Édouard Bergeon, enfin, etc., etc. Tous ces endroits sont très différents, tous ces revenus sont très variés et quand on fait une moyenne, ça ne dit pas grand-chose du statut de tel ou tel, en l'occurrence Fanny Durand-Bochung.
Oui, c'est ça qui est compliqué en fait, c'est à chaque fois de faire d'un cas une généralité en fait. Et en général, on va partir d'un fait divers, un truc pas forcément valorisant pour un agriculteur en particulier. Et d'un seul coup, ça va être le cas de tous les agriculteurs en fait. Et personnellement, j'étais dans la communication avant d'être dans l'élevage, donc forcément je gagnais 10 fois plus ma vie avant qu'aujourd'hui. Donc si je l'ai fait, c'est par passion pour mes animaux, par fierté de reprise de la ferme, de mon père, de mon grand-père. Et moi aussi j'ai repassé un BPREA alors que j'avais un diplôme en communication. Donc voilà, tout ça j'ai fait par passion, et quand on arrive et qu'effectivement là je suis face moi-même aujourd'hui à des difficultés financières, trop de charges, trop d'investissements, trop de tout ça, et qu'à côté de ça, d'un seul coup on se fait attaqué parce que, vous faites du lait, mais c'est l'horreur, vous arrachez donc les veaux des mers, c'est ce qui me revient tout le temps, vous faites ça, mais c'est l'horreur, enfin je me dis, mais je suis vraiment stupide au point d'avoir fait ça, parce que je déteste les animaux, et en plus j'avais envie de pas gagner d'argent, donc c'est ça moi qui me révolte en fait, quoi. J'aimerais vraiment qu'on ne fasse pas d'un cas une généralité et qu'on considère un petit peu plus sa profession.
Édouard Bergeon, puis ensuite Édouard Lynch.
Je crois que beaucoup de citoyens ont oublié qui remplissait notre assiette au quotidien. Tout simplement, ce sont les agriculteurs. Et cette assiette, c'est notre santé. Donc voilà, juste je questionne ça.
Édouard Lynch, il y a quelque chose aussi qui est un peu différent par rapport à la longue histoire des agriculteurs en France que vous décrivez dans vos insurrections paysannes de la terre à la rue. Vous y décrivez une population qui, depuis les années 30 et surtout depuis les années 50, après la Seconde Guerre mondiale, a pris la rue. Est descendu dans la rue, a fait des insurrections, a été extrêmement vive contre les gouvernements successifs et qui, peut-être aujourd'hui, serait moins active. Certes, on est aujourd'hui dans une journée d'action de la FNSEA et des jeunes agriculteurs, mais ça n'est plus la vigueur peut-être que ça pouvait avoir à une certaine époque, et en particulier la violence des années 60 contre les gouvernements.
Oui, alors c'est vrai que les rapports de force ont évolué. Hein. C'est plus facile de mettre le désordre quand on est très nombreux. C'est aussi plus facile quand on a des formes de tolérance ou d'acceptation des pouvoirs publics. Et c'est en fait un des éléments moi qui m'a frappé dans ce travail, c'est de comprendre que finalement la violence et le recours à la rue des agriculteurs étaient en grande partie permis et facilité par une forme de tolérance de l'opinion. C'est-à-dire que, après tout, la révolte des paysans était légitime parce que, justement, ils avaient cette image positive des nourriciers et puis de ceux qui font vivre le pays.
Et ça, c'était vrai jusqu'à quand? Dans les années 80, 90?
Voilà, je pense que c'est vrai jusqu'aux années 80-90. On pourrait voir le tournant, finalement, à partir du moment où les excès du système productiviste, en tout cas la masse des surplus, par exemple, font que les agriculteurs n'hésitent plus à détruire le lait, à détruire les produits agricoles. Donc le sentiment que les politiques agricoles sont uniquement des politiques qui leur permettent de récupérer des biens, donc la question des subventions, des terres en jachère. Donc il y a cette espèce de processus d'inversion hein, qui, du coup, tend à rendre leur révolte moins légitime. Et on voit très bien qu'à ce moment-là, les paysans s'efforcent, alors pas encore de mettre en place un numéro vert, ça n'existait pas, mais de lancer d'une certaine façon des opérations de communication, hein. On peut penser
à la grande moisson.
Voilà, la grande moisson, hein, qui renvoie d'ailleurs à une histoire plus longue, hein, parce que on avait fait ça déjà dans les années 30, hein, donc d'essayer de montrer que oui, le paysan est proche. Et d'une certaine façon, ça fonctionne. Ce qui me frappe aujourd'hui, C'est que ça semble beaucoup plus difficile que quelque part les 30 ans ou les 40 ans d'agriculture productiviste ont vraiment créé un fossé et qu'il est extrêmement difficile de le franchir, d'autant que pendant que ce fossé s'agrandissait, les citadins, hein, qui sont quand même les dominants, les producteurs de discours, continuaient finalement à se bercer du charme de ce lien à la terre, par le biais des résidences secondaires, des vacances, donc d'une consommation de loisirs, d'une terre pacifiée, sans voir effectivement ce qu'était devenu à côté la réalité, alors à la fois de la spécialisation agricole, mais en même temps aussi des vraies difficultés, voire de l'impasse de ce modèle productiviste.
C'est déjà l'aube sur ta cambrousse, t'enfiles tes bottes, ta salopette. Le petit-déj est pris sur le pouce, c'est ta routine 7 jours sur 7. On peut pas dire que t'es à la bourre, soit tu connais pas les horaires, et toute cette terre que tu laboures appartenait à ton grand-père. Y'a longtemps que tu comptes plus les heures, à quoi tu penses sur ton tracteur.
France Culture.
Il y a longtemps que tu comptes plus les heures.
Le temps du débat
sur ton tracteur.
Emmanuel Laurentin.
Un temps du débat consacré ce soir, il est 18h41 sur France Culture, à la France et ses paysans, à un amour déçu. Et nous recevons donc Fanny Durand-Bochung, qui est une cofondatrice du collectif Ici la Terre. Nous avons également avec nous l'historien Édouard Lynch et le cinéaste Édouard Bergeon, dont le film Au nom de la Terre remporte un grand succès ces temps-ci. Vous vouliez réagir à ce que disait Édouard Lynch justement sur cette question d'incapacité à utiliser la violence qui avait été utilisée si souvent par les agriculteurs dans les années 60-70.
En fait, c'est qu'on a basculé les agriculteurs d'une économie de production à une économie de consommation. L'économie de production, c'est du traité de Rome en 54 jusqu'à 90-92. Ouais. L'économie de consommation. Alors là, on financiarise notamment l'agriculture.
Les grands marchés internationaux.
Les grands marchés internationaux, l'économie est aveugle. C'est la bourse de Chicago qui fixe les prix du blé. Qui est complice de tout ça? Les groupes coopératifs. Et puis les consommateurs. C'est-à-dire qu'on détruit le territoire, on détruit la santé publique, enfin, et l'autosuffisance alimentaire, et nos paysans, donc.
Mais en même temps, c'est la promesse, on l'a diffusée il n'y a pas très longtemps, on n'allait pas la diffuser aujourd'hui, la promesse de Pisani, Edgar Pisani, ouais. 1962, ministre de l'Agriculture, qui dit s'il faut produire du lait rouge et des pommes carrées, on produira du lait rouge et des pommes carrées, parce que, d'une certaine façon, on va être dans la modernité, et la modernité...
On met Tricatel au fond, et puis à la fin de la chaîne...
Tricatel, c'est l'aile ou la cuisse, effectivement.
Et puis tout va bien, sauf qu'aujourd'hui, on est à la fin de ce système-là, on le voit bien.
Fanny Durand-Bochung, justement, cette rupture, ce fossé qui était évoqué à l'instant même par Edouard Lynch, vous le ressentez fréquemment quand vous, simplement, vous allez faire vos courses, vous discutez avec des gens qui ne sont pas des agriculteurs, vous en parlez comment?
Après,
et ils vous en parlent comment d'ailleurs?
Ben je sais pas. Alors pour le coup, moi je suis pas vraiment dans une agriculture traditionnelle puisque tout est en vente directe, donc j'accueille le public sur la ferme, on a des petits animaux, un début de ferme pédagogique. Donc en fait, j'aperçois plutôt un mieux, on va dire, puisque les gens en tout cas dans notre village et aux alentours ont été ravis de voir l'ouverture d'une ferme avec la possibilité de venir voir comment sont produits les yaourts, le fromage. Et ils sont contents de venir avec leurs enfants le week-end et puis de voir justement en direct comment sont traités les animaux. Moi, si on a des questions, je suis ravie de leur proposer d'assister à la traite, de venir voir comment on fait. Enfin, tout simplement, on accueille les écoles. Donc,
mais ça, c'est assez nouveau d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'il faut faire un effort pédagogique pour pouvoir rapprocher un public qui connaît de moins en moins le métier agricole de ce que vous faites au quotidien. C'est tout de même ça que vous êtes obligé de faire.
C'est ça. Après, c'est pas donné à tout le monde. Moi, je suis dans le 78, donc je suis pas très loin de Paris. Je suis quand même dans une zone vraiment excentrée. Donc, j'ai la possibilité de le faire. Après, c'est pas donné à tous les agriculteurs de pouvoir accueillir le public chez eux, en fait. Donc,
alors, il y en a d'autres qui font, par exemple, comme Antoine Thibault, éleveur normand. Ils ouvrent leur chaîne YouTube et ils expliquent avec leur propre caméra ce qu'ils font tous les jours dans leur ferme.
Je m'appelle Antoine Thibault, je suis éleveur de vaches laitières en Normandie et je poste régulièrement des vidéos pour parler de mon métier. Parce que éleveur, c'est un métier qui est très beau et qui est incroyablement complexe. Sur ma chaîne, on va régulièrement parler de bien-être animal et de conditions d'élevage. Je vais vous parler aussi de comment mes vaches se nourrissent et comment je produis leur nourriture. Je vais vous parler de l'élevage de mes veaux aussi. Sur ma chaîne, vous trouverez aussi une playlist coup de gueule, parce que les idées reçues sur l'élevage et sur l'agriculture en général sont très nombreuses. Et ça m'énerve.
Un extrait du travail donc sur la chaîne YouTube d'Antoine Thibault, de cet éleveur normand qui tente d'expliquer son propre travail. Il fait de l'image lui aussi, pas en professionnel comme vous, Edouard Bergeon, mais Antoine Thibault tente de faire comprendre par les images ce qu'il est en train de faire tous les jours.
On est tous fiers de se revendiquer fils ou fille de la terre.
Ou petit-fils.
Petit-fils, petite-fille. C'est-à-dire, on est parisien, mais on a des grands-parents qui sont agriculteurs, on a passé des vacances.
On avait une agricultrice, une éleveuse, il n'y a pas très longtemps, qui, Anne-Cécile Suzanne, qui disait, en fait, tout le monde nous dit, bah oui, je suis petit-fils de paysan, et en étant très fier, mais en ne comprenant rien à ce qu'on fait aujourd'hui.
C'est ça, donc on croit tous connaître un petit peu l'agriculture qu'on a vue, il y a quelques décennies, pendant des moments de vacances, sauf que je le raconte comme ça dans mon film, même entre un grand-père, donc les 30 glorieuses, hein, les années 70, 80, où on travaille, mais on gagne de l'argent, et un fils qui reprend au tournant des années 80-90 avec cette économie de marché, on ne se comprend plus. Alors vous imaginez ce grand public qui est issu, certes, peut-être d'une filiation agricole, qui ne peut plus rien comprendre justement à ce que le travail aujourd'hui, en plus avec des outils qui ont grossi et beaucoup moins de main-d'œuvre qu'à l'époque, il faut bien le spécifier, avec un isolement total.
Désertification tout de même.
Tout simplement.
Deux agriculteurs, voire un agriculteur par village la plupart du temps, oui. Parce que simplement on ne peut plus...
Donc un grand isolement, et ça, je pense que c'est, voilà, je pense que c'est, ça fait vachement beaucoup de mal à l'agriculture.
Edouard Lynch, ça sert à comprendre cela aussi, l'histoire et le travail des historiens comme vous?
Bah, tout à fait, parce que...
On est passé moitié de la France rurale, c'était en 1930, aux alentours de 1930, et aujourd'hui on est à 400 000 agriculteurs, c'est ça?
Ouais, tout à fait, ouais. Alors bon, après c'est France rurale, donc c'est vrai que dans les années 30, il y avait encore 40% de population active, mais c'est clair que l'effondrement, la diminution a été extrêmement forte, et encore dans ces 300 à 400 000 agriculteurs ou exploitations aujourd'hui, le tiers, ou presque la moitié, fonctionne sur grâce à la pluriactivité, ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire le fait d'avoir un second salaire, ce qui souvent signifie que l'agriculture en elle-même n'est pas rentable. Donc effectivement, ça pose un vrai problème sur la viabilité de ces structures économiques. Moi, ce qui m'intéresse en tant qu'historien de la paysannerie, c'est je me pose toujours la question de la comparaison avec les autres catégories sociales. C'est-à-dire que l'agriculture est le seul métier où il est impossible d'envisager une forme de disparition. Et où le rapport au passé est complètement fusionnel. Voilà, aujourd'hui, vous
arrivez. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ?
Je veux dire par là que il semble impossible d'accepter sa mutation ou son évolution profonde, parce qu'elle est intimement liée à l'essence du local, de l'appartenance identitaire et nationale. Et c'est très fort dans la construction, en particulier en France, mais dans la plupart des pays. Et du coup, on regarde cette évolution avec une forme d'impossibilité. Et déjà dans les années 30, à une époque où pourtant les paysans étaient extrêmement nombreux, on brandissait déjà ce spectre d'une France sans paysans, donc une disparition de la France. Et ça me semble très intéressant, parce que ça pose la question, finalement, toutes les professions sont soumises à des processus de modernisation. Je dirais aujourd'hui, il y a plus de mineurs, mais même sur des métiers d'artisanat, enfin tous les métiers en fait ont disparu, au sens où ils ont été complètement mutés, enfin ils ont été transformés par la révolution industrielle et les révolutions industrielles, et le métier d'agriculteur aussi, mais d'une certaine manière, par la charge émotionnelle et sentimentale qu'il porte avec lui, par ce problème, cette question du lien à la production naturelle, au rapport à l'environnement, il cristallise des tensions beaucoup plus fortes, et il est extrêmement difficile d'envisager à la fois sa disparition, est-ce possible finalement, on peut se poser la question, ou tout au moins sa mutation absolument fondamentale.
Fanny Durand-Bochung, d'ailleurs, pourquoi avoir repris une ferme, celle de votre père, et pourquoi tout compte fait avoir voulu recommencer cette histoire alors qu'elle aurait pu s'arrêter? Vous disiez, j'avais un diplôme en communication, donc on peut d'une certaine façon vivre autrement, et vous dites effectivement vous gagnez bien moins votre vie aujourd'hui que vous ne l'avez gagné auparavant. Pourquoi l'avoir repris dans un contexte où justement vous êtes attaqué de toutes parts, ou assez souvent attaqué, et dans un contexte aussi où vous êtes de moins en moins nombreux à le faire, ce métier?
L'avoir repris, parce que déjà, j'y suis attachée à cette ferme. C'était, comme je l'ai dit, celle de mon grand-père qui avait des vaches à l'époque. Je me souviens, petite, elle distribuait le lait dans le village avec lui. Après, du coup, c'était mon père. Donc, j'ai grandi, moi aussi, une partie de mon enfance là-dessus, sauf qu'on était vraiment sur des céréales, en fait. Et après, c'est seulement en 2017 qu'on a commencé à prendre les vaches et à changer complètement. Donc pourquoi j'ai décidé de changer ça? Bah déjà c'était par passion animale parce que j'ai toujours adoré les animaux. Je commençais à être lassée du milieu de la communication, un peu.
Ça peut arriver.
Voilà, écœurée. Et du coup je me suis dit super quoi, c'était la petite maison dans la prairie en fait. Et du coup je me suis dit allez génial.
Mais vous êtes lancée sans savoir justement qu'il y avait ce regard un peu soupçonneux.
Je pensais pas que c'était à ce point parce que je me suis dit si on fait les choses bien il y a pas de raison. Je pensais pas que c'était si fort en fait. Je pensais pas que la force des médias ou des réseaux sociaux était si forte quoi. Et puis j'ai envie de dire tant qu'on n'est pas dans quelque chose et qu'on le vit pas c'est compliqué de s'en rendre vraiment compte.
Les consommateurs sont schizophrènes. Hein. Faut plus manger de viande mais des produits véganes avec du soja OGM qui vient d'Amérique du Sud, arroser de glyphosate.
Mais justement, cette idée de que moins il y a d'agriculteurs, moins il y a d'agricultrices, et plus, d'une certaine façon, le ressentiment peut remonter avec ce que disait Edouard Lynch, c'est-à-dire ce regard nostalgique sur un passé lointain qui ressemble à des pubs pour des biscottes ou pour des choses comme cela.
Ouais, puis si on associe en plus qu'on est fier d'être un pays de produits, de bons produits, de gastronomie, c'est vrai qu'on sait faire des produits d'exception et on en fait. Sauf qu'aujourd'hui, majoritairement, on les exporte. Donc, c'est en ça, je pense, que cette vitrine du Salon de l'Agriculture, qui est une mascarade, y a un sondage qui existe tous les ans, et 80 ou 85% des Français aiment leurs paysans.
Voilà, prouvez-le.
Votre bulletin de vote est dans votre poche, c'est votre carte bleue. Donc, avec elle, consommez différemment. Achetez de l'agriculture du bout du chemin, celle que fait... notre éleveuse ici, avec ses fromages fermiers, au lieu d'acheter des produits qui viennent de n'importe où et dont on ne sait pas comment ils sont faits.
Alors, il y a aussi quelque chose, et il ne faut pas se leurrer, c'est que régulièrement, par les films de Raymond Depardon, les documentaires, d'autres documentaires de ce type-là, on redécouvre ce milieu des agriculteurs, on a l'impression que effectivement il est en train de s'éloigner, mais on le rapproche de nous. Et votre film, d'une certaine façon, Edouard Bergeon participe de cela. C'est-à-dire que vous nous ramenez dans une réalité, dans la cour de ferme, comment on conduit un tracteur, comment on conduit une moissonneuse-batteuse, comment on fait avancer le tracteur et la remorque en même temps que la moissonneuse-batteuse pour aller plus vite au bout du champ et pour aller livrer à la coopérative à côté. Tout cela, on le comprend bien, mais est-ce que vous pensez pas que cet effet d'un film qui a un certain succès peut s'arrêter aussi très rapidement ou est-ce que vous espérez qu'il y ait autre chose justement, qu'il y ait une réflexion sur l'évolution du milieu agricole et la possibilité de le changer?
Alors c'était mon secret d'espoir, mais c'est vrai que vu le nombre d'entrées et ce petit côté phénomène, les politiques l'ont vu ou sont en train de le voir, le président de la République.
Vous l'avez vu avec lui?
Oui, on a fait une projection privée à l'Élysée avant même la sortie, j'ai amené les agriculteurs et on a fait une vraie séance de travail. Avec Solidarité Paysan, notamment, une association qui
travaille en particulier sur le suicide des agriculteurs.
Suicide et qui fait de l'écoute et de l'accompagnement auprès des agriculteurs en difficulté. On l'a montré aux députés, ça boucle, il y a des choses qui se font, des engagements qui ont été pris. Le ministre l'a vu. Au moins, on va montrer ce film à l'enseignement agricole. Il y a 200 000 étudiants, élèves, et les lycées sont demandeurs, et les professeurs aussi, profs d'éco, sociaux. Bientôt au Sénat et bientôt au Parlement européen. Sur des projections transpartisanes à chaque fois. J'ai des rendez-vous et des tables rondes avec des acteurs de l'agroalimentaire qui se disent qu'ils ont été quelque part les fossoyeurs d'eux.
Ils le disent.
En tout cas là, dans la prochaine réunion que j'ai, oui, ils n'ont pas aidé les agriculteurs et ils sont prêts à mettre de l'argent sur la table pour aider la transition agricole et en tout cas éteindre cet incendie qui est celui du suicide des agriculteurs.
Et de votre côté, Fanny Durand-Bochung, votre numéro, il faut le rappeler à nos auditeurs, parce qu'on ne l'a toujours pas dit encore, c'est quoi
tout
ce numéro?
Tout à fait, c'est le 0805-382-382.
0805-382-382, ça s'appelle Ici la Terre, ça existe depuis maintenant un petit mois, c'est
oui,
ça?
C'est ça.
Voilà.
C'est ça.
Et vous avez eu combien de personnes qui vous ont appelé depuis un petit mois? C'est beaucoup, c'est peu?
Beaucoup, mais ça a été... très fort au début, et puis on ressent aujourd'hui un petit essoufflement, ça dépend, je vous dis vraiment
ça
de l'actualité.
Ça va repartir avec une émission comme celle-ci, peut-être.
Vraiment, je pense que demain, ça va être la folie, mais, Mais non, j'espère que ça va, pour le coup, j'espère que ça va perdurer. Le petit espoir qu'on avait avec Olivier et Jérôme, c'était qu'en fait, le numéro reste et que ça soit comme un réflexe, en fait, que si en fonction de l'actualité ou que...
0805 382 382.
Et on aimerait bien que voilà, les gens ont une question, au lieu d'aller chercher sur Internet, d'en parler, une question, ça soit le réflexe, quoi. Hop, le numéro vert.
Et est-ce que c'est aussi parce que vous avez envie qu'on vous parle? Parce que tout compte fait, il y a aussi cela, c'est-à-dire que vous avez envie de parler, d'expliquer, mais vous avez peut-être envie qu'on vous parle, simplement, alors plutôt que de vous insulter du bout du champ.
C'est ça, après je pense qu'il y a aussi un petit lot d'insultes, mais envie qu'on nous parle, oui, envie d'être écouté, envie d'instaurer le dialogue et de réinstaurer un dialogue sincère et durable.
Oui, Edouard Mergeau.
Oui, aujourd'hui on voit naître de plus en plus d'actes d'incivilité, au bout du champ justement, des citoyens qui empêchent de sortir des agriculteurs, qui leur font des actes d'incivilité, des insultes, des actes de malveillance. Nous, on l'avait connu déjà un peu à l'époque, mais là, c'est en train de grandir. Et puis, maintenant que le coq a plus le droit de chanter et que les cochons, ça pue, quand on vient s'installer à la campagne, les néo-ruraux, certains, sont vraiment durs. Et je pense que recréer du dialogue, c'est primordial. Puisque quand on n'aura plus, je sais pas moi, quand on n'aura plus rien à manger... Là, on se posera peut-être des questions si on n'a plus d'agriculteurs et qu'on n'est plus autosuffisant en alimentation.
Edouard Lynch, justement, ces questions vous paraissent extrêmement nouvelles. Vous avez arrêté votre livre à l'orée des années 2000 en imaginant dans l'insurrection paysanne que, en tant qu'historien, vous ne pouviez pas vous approcher aussi près de l'histoire en train de se faire. Qu'est-ce que vous pensez justement de ces derniers développements par rapport à ce que vous avez connu?
C'est très clair hein, que c'est ce que j'essayais d'expliquer tout à l'heure. Je pense qu'il y a un vrai retournement aujourd'hui, c'est-à-dire que les questionnements sont réellement différents. Le rapport à la nature, le rapport à la question de l'exploitation animale. Bien sûr, il y a des effets de médias, il y a des effets de réseaux sociaux, mais ça peut être aussi des interrogations véritables. Hein, l'interaction de l'homme avec son environnement naturel, c'est pas seulement, me semble-t-il, une question de mode. Et c'est peut-être d'une certaine façon une chance à saisir ou une opportunité pour l'agriculture de reprendre finalement ou de prendre, parce qu'elle ne l'a pas toujours été, mais de prendre une place dans ces nouvelles perspectives.
Voilà. Et puis on peut conseiller effectivement aussi l'entretien qu'a donné le professeur des universités, ingénieur en agriculture et docteur en sociologie rurale, François Pursaigle, au site de France Culture aujourd'hui, à Anne-Laure Chouin et à Éric Chavroux, vous allez le retrouver sur le site de France Culture où il dit, en fait, le monde agricole actuel est en quête de récit, vous lui en offrez un, d'une certaine façon, Edouard Mergeau, un récit, mais c'est un récit négatif ou c'est un récit désespéré?
Non, c'est un récit de l'histoire d'une famille d'agriculteurs qui est la mienne, qui raconte quelque part l'histoire de la France agricole. C'est un film qui vous met une gifle. Quand vous prenez une gifle, vous êtes ébranlé. Quand vous êtes ébranlé, vous pouvez bouger. Et je pense que l'agriculture doit faire sa révolution, les agriculteurs doivent faire leur révolution, mais on doit les aider pour ça.
Merci beaucoup Edouard Mergeau d'être venu parler de ce monde agricole que vous connaissez bien dans cette émission du Temps des débats. Merci à vous. Merci aussi Fanny Durand et Boschung. Je rappelle le numéro 0805 382 382, donc c'est ici la Terre. Et merci à vous également Edouard Lynch. Je rappelle que votre livre s'intitule Insurrection paysanne de la terre à la rue et c'est aux éditions Vendémiaire. Ça vient tout juste de sortir en ce début d'année, donc un livre à conseiller pour comprendre justement l'évolution de la question de la violence dans le milieu agricole. C'était le temps du débat. Chloé Cambrelin, Rémi Baille, Fanny Richer, Hugo Boursier, Louise André à la technique aujourd'hui, Alexandre Dang à la vidéo, Florent Bujon, et à la réalisation, Alexandre Manzanares.